Bonjour.
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 Donc, on est ici le 5 juillet 2022 dans le parc de la poudrerie de Saint-Chama et Miramas en présence de Benoît Vincent, qui est écrivain et botaniste, et de Joël Torres, qui nous parle de son travail. Bonjour Joël.
Bonjour aussi.
Est-ce que, pour commencer, tu peux, te présenter, dire quelles sont tes tâches ici à la poudrerie et peut-être aussi comment tu en es arrivé à travailler ici?
J'ai plutôt commencé par ça, en disant qu'effectivement, je suis arrivé au parc de la poudrerie en 2005 à l'issue d'un stage sur la gestion de l'eau, en fait lié à mes études d'un bac plus 2 qu'on appelait le DUST, qui était vraiment scientifique mais aussi technique, et qui m'a conduit à venir travailler sur le parc, à renforcer dans un premier temps l'équipe en place qui s'occupait de l'entretien du site. Et puis derrière, avec mes compétences valorisées, j'ai pu prendre plusieurs fonctions, notamment tout ce qui est suivi d'espèces, études scientifiques, et aussi éducation à l'environnement.
Okay. Ouais,
donc c'est aujourd'hui mes principales missions, bien que j'ai des missions variées. On a une équipe quand même qui a beaucoup de fonctions,
ouais.
Et chacun doit être polyvalent, et on peut aussi faire des suivis de travaux, on peut réaliser des choses et également nous-mêmes, c'est très varié dans l'année, on fait beaucoup de tâches.
D'accord. C'est qui ton employeur, en fait, ici au parc?
C'est le syndicat intercommunal de l'ancienne poudrerie, qu'on dénomme Sianpou, qui est un syndicat qui regroupe les deux communes de Miramas et Saint-Chama, à la fois pour la gestion financière et la gestion du personnel.
D'accord. Ok. Peut-être, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu, l'ancienne? Donc, c'est l'ancienne poudrerie. Qu'est-ce que c'est que ce parc ou cette ancienne poudrerie?
C'est à la base un site industriel. C'est ce qui est complètement fou, parce qu'aujourd'hui, on a un espace naturel qui fait 118 hectares, qui a vraiment un tout autre aspect que son aspect d'origine, puisque c'est un site qui a 300 ans d'histoire, qui est né sous Louis XIV en 1690. Et qui était tout simplement une fabrique de poudre noire et d'explosifs par la suite.
Ouais, ça a changé quand? Enfin, c'est resté une poudrerie jusque...
C'est resté une poudrerie jusque dans les années 1974.
D'accord.
Où elle a été fermée puis démantelée.
Oui.
Abandonnée. Jusque dans les années 2001, où le Conservatoire du Littoral a acheté les terrains dans une vocation d'accessibilité à tout un chacun, plus biodiversité, quoi.
Et donc, il y avait de la poudre et ensuite des explosifs, c'est ça?
C'est ça. En fait, historiquement, la poudre noire est le seul, pas explosif, mais le seul moyen qu'on avait à l'époque pour tout ce qui était canon et fusil.
Ouais.
Et puis derrière, au milieu du 19e siècle, a été inventée toute une série d'explosifs qui ont conforté en fait l'offre, et qui après ont pris de l'essor également sur le site, puisqu'on a fabriqué énormément d'explosifs divers et variés, tant militaires qu'aussi pour du civil, en fait.
Ah, pour du civil.
Oui, on n'y pense pas forcément de prime abord, mais effectivement, il y a des utilisations civiles. Par exemple, la dynamite est un explosif de carrière pour tout simplement les mines et les... creuser des tunnels, etc.
Ok. Et donc, comment se fait-il qu'on voit très peu de choses aujourd'hui de cette activité industrielle? On a l'impression d'être dans un espace naturel, effectivement.
Les militaires avaient obligation de nettoyer le site, ce qu'ils ont fait à grande échelle. Ils nous ont néanmoins laissé quelques bâtiments, notamment des anciens transformateurs et des bâtis historiques comme les moulins à poudre. On pense que les moulins à poudre ont été sauvés par une équipe de bénévoles qui était présente au moment et qui ont voulu laisser une trace pour le futur. Et les transformateurs, je pense que c'était une question de plus problématique puisque les transformateurs contenaient du PCB, du pyralène, qui est une huile qui est controversée aujourd'hui pour ces notions de cancérigène.
Oui, et je crois qu'il y a une zone aussi qui appartient encore à l'armée.
Tout à fait, une enclave militaire de 7 hectares qui est encore restée militaire, notamment parce que en 2001, quand le Conservatoire du littoral a acheté le site, il était censé être beaucoup plus pollué que le reste. Mm-hmm. Donc les militaires l'ont gardé et aujourd'hui ils aimeraient énormément s'en séparer puisque ça leur incombe à la charge. Ils ont un entretien à faire pour le risque incendie. Et le conservatoire a dit non, mais moi je ne prends pas en charge la dépollution du site. Et effectivement, l'armée n'a pas de sous pour dépolluer elle-même. Donc c'est pour l'instant, ça reste une réserve dans la réserve, puisque nous, on n'y a pas accès, il n'y a personne qui y rentre. Et puis ça reste complètement à l'état naturel.
On sait ce qu'il faudrait dépolluer ou c'est pas très clair?
Plutôt les sols. Dans les sols, il resterait des métaux lourds, plein de choses pas...
Ce qui est très étrange sur ce site, c'est qu'à la fois on a une origine historique et très très anthropique, donc avec la présence d'une activité humaine en plus militaire, et aujourd'hui on a un espace naturel avec qui mise donc sur les aspects actuels de biodiversité, de choses comme ça. Et paradoxalement aussi, ces activités humaines, on a cru comprendre dans ce que tu viens de dire que ça a laissé des traces de pollution, et en même temps on a une richesse faunistique et floristique très importante. C'est un paradoxe. Est-ce que tu peux nous parler justement de la richesse écologique du site par rapport à ses aspects industriels au départ?
Oui, en fait le site a été complètement remanié par l'homme. Il faut vous imaginer que dans les époques plus lointaines, au XVIIIe siècle, le site faisait une toute petite unité. Il a commencé sur 1,5 hectare et il a fini en usine à 135 hectares. Et une grande partie, donc 50 à 60 hectares, ont été comblés sur l'étang. Donc c'est complètement un polder qui a façonné à la fois la biodiversité, mais aussi le paysage. Biodiversité qui a été aussi remaniée du fait de l'introduction d'espèces exotiques, notamment parce qu'il y a eu deux directeurs de la poudrerie qui étaient férus de botanique et qui ont fait ramener des essences d'arbres qui venaient des quatre coins du monde pour faire un jardin d'agrément notamment, et puis pour les introduire aussi dans d'autres secteurs du parc. Je pense notamment au cyprès chauve qui est fortement utilisé pour faire des allées dans le parc et qui avait la particularité de... L'arbre était quand même important à l'époque puisqu'il servait à drainer les sols, puisqu'on avait déjà récupéré les terrains qui étaient sur l'étang, donc il fallait drainer un peu les sols. Ça servait aussi de limitation en cas d'explosion, ça limitait le souffle. Et ça faisait aussi de l'ombrage pour certains bâtiments et certaines utilisations de fabrication.
Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire, drainer les sols ?
Pomper, tout simplement, parce que si on creuse sur la majorité du site, on a l'eau à 40 cm, donc c'est complètement... inondé, et il y a même d'ailleurs souvent des endroits où ça s'est creusé et on a des trous d'eau qui se maintiennent une grande partie de l'année, avec aussi la problématique du moustique qui aime énormément ces gîtes là.
Et pardon, mais du point de vue de la biodiversité, donc on a un ensemble de d'habitats et d'espèces tout à fait original, puisque donc d'une part on a ce mélange de faune et de flore naturelle, disons de flore naturelle et de flore installée par l'homme, quoi. Et d'un autre côté, ce qui est très frappant sur le site, c'est que le bord de l'étang, donc on est sur des milieux aquatiques puis hydrophiles, et petit à petit on arrive vers les safres qui sont eux par contre typiquement secs, xérophiles et méditerranéens.
Exact.
Ce qui enrichit aussi, j'imagine, le nombre d'espèces.
Tout à fait, en fait on a une mosaïque de milieux, notamment par un milieu qui est typiquement méditerranéen, effectivement sur les collines de Safre.
Mmh. Peut-être qu'il faudrait nous redire ce que c'est que le Safre, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce mot local.
Effectivement, le Safre est une concrétion de sable qui date du tertiaire, c'est-à-dire à l'époque où il y avait la mer. On a des falaises qui font à peu près 30 à 40 mètres de haut et qui sont issues de...
Attends, on va laisser passer peut-être... Le transport.
Vas-y. Oui, donc le Saffre est une concrétion de sable qui date du tertiaire, à l'époque où il y avait la mer. Il réalise des hauteurs qui sont de 30 à 40 mètres en colline, avec une particularité, c'est que le saffre est très friable, on peut le creuser à la main. Et ce saffre, évidemment, sur les points hauts, mène à des paysages complètement méditerranéens, avec une alternance de pelouses sèches, de garrigues, de pinèdes à plein d'Alep. Et la particularité du reste du site, c'est que, étant donné qu'on a utilisé beaucoup d'eau douce sur site, qu'on a fait venir pas mal d'eau douce pour l'utilisation du site, hein, l'eau était prépondérante puisqu'elle réalisait la force motrice à l'époque, elle servait de refroidisseur pour rincer les cuves et le réseau incendie, donc complètement primordial. Et cette eau douce, en fait, a généré, puisqu'aujourd'hui, une grande partie de ces eaux douces sont encore coulantes sur site, ont généré une forêt hygrophile qui est assez exceptionnelle dans le coin, puisque normalement, en fait, on a une végétation de type ripisylve, en fait, qui est normalement le long des cours d'eau. Et or, nous, ça fait des grandes surfaces qui sont avec ces espèces et qui, du coup, génèrent des milieux qui vont être beaucoup plus sécuritaires pour les espèces, notamment. Puisque nous, on laisse en grande partie le site sur de la naturalité. On n'intervient pas dans des grosses surfaces. Mm-hmm. Et du coup, il y a pas mal d'espèces qui viennent s'y cacher.
Merci. On va faire une petite pause.